Bonjour Julien Aubert.
Bonjour Frédéric Rivière.
L'Assemblée nationale a adopté hier soir en première lecture le projet de loi qui autorise le gouvernement à recourir au pass sanitaire jusqu'à la fin du mois de juillet 2022. Vous êtes intervenu hier dans ce débat pour vous interroger sur la pertinence qu'il y aurait, je vous cite, à garder un régime dérogatoire du droit commun qui exclut des millions d'enfants d'associations sportives ou culturelles, qui suspend 15 000 soignants qui manquent à l'hôpital et qui fractionne la population alors que, disiez-vous, les chiffres épidémiques ne cessent de décroître, ce qui n'est d'ailleurs pas tout à fait juste puisqu'il une légère reprise, mais enfin, pour l'instant, c'est encore assez faible. La réponse était dans votre question. Pour vous, il ne fallait pas le faire.
Non, pour moi, on peut effectivement considérer que nous ne sommes pas sortis de l'épidémie, même si à aucun moment une épidémie s'arrête de manière décrétée. Hein. Et en même temps, considérer du coup qu'on peut prolonger le dispositif, peut-être de 2 mois, histoire de voir comment se passent l'automne et l'hiver, mais pas pour autant donner un blanc-seing qui va jusqu'en juillet 2022, et qui fait semblant d'enjamber toute la vie démocratique.
Mais permettre au gouvernement de recourir à cet outil, donc le pass sanitaire, en fonction de l'évolution justement de l'épidémie, est-ce que ça n'est pas une façon de lui permettre d'être réactif et de faire face rapidement en cas de besoin ? Certains ont pris l'image de l'arme qu'on garde à la ceinture.
Oui, mais c'est toujours l'argument derrière de l'efficacité. Alors c'est vrai que la démocratie, ça prend du temps. La démocratie, on a l'impression qu'on perd de l'énergie, mais la délibération collective, elle permet aussi d'éviter de faire des erreurs. Et ce n'est pas un sujet anodin, le pass sanitaire. C'est quelque chose qui vient tous les jours frapper des millions de Français qui sont obligés, pour des gestes de la vie quotidienne, de montrer leur état de santé. C'est quelque chose qui est exorbitant par rapport à des, je dirais, à la vie de tous les jours. Et donc, comme ça n'est pas anodin, je maintiens que le Parlement doit, tous les 2 mois, tous les 3 mois, redonner cette autorisation, que le gouvernement puisse venir expliquer, au regard de la situation épidémique, pourquoi le maintien de ce pass sanitaire reste nécessaire, en rappelant que le pass sanitaire ne protège d'aucune épidémie, c'est bien le vaccin. Et pendant qu'on débat du pass sanitaire, on ne débat pas de l'obligation vaccinale, du bilan coût-avantage du recours au vaccin, etc., etc.
Vous pensez que l'obligation vaccinale aurait le mérite d'être plus claire et plus égalitaire, finalement ?
Je pense qu'elle aurait le mérite d'être plus claire, qu'elle permettrait d'avoir un débat scientifique et pas un débat de principe au Parlement. Et puis, troisièmement, d'avoir des réponses à certaines questions. Parce que aujourd'hui, finalement, on demande un pass sanitaire de la même manière aux jeunes qui a 18 ans et à l'octogénaire ou à la personne obèse. Alors qu'on sait très bien que les risques ne sont pas les mêmes pour ces catégories. Hier, j'ai demandé au ministre de la Santé quel était le bilan coût-avantage pour les jeunes de moins de 18 ans. Il m'a renvoyé avec morgue au site de l'agence du médicament. Je suis allé regarder, je n'ai pas trouvé l'information. Il m'a renvoyé avec morgue à une page d'un document. Je me suis aperçu que c'était le bilan du vaccin Pfizer, ce qui signifie que, un, l'État n'a aucune donnée consolidée qui lui appartient en lui-même sur tous les vaccins. On est incapable de dire, voilà, sur tous les vaccins qui aujourd'hui sont, je dirais, distribués en France, voilà le bilan coût-avantage, effet secondaire et éventuellement létalité, ce qui est le cas de Pfizer. Il y a eu un cas de moins de 18 ans.
Une nouvelle disposition a été introduite dans le texte à la demande du gouvernement. Elle permettra aux directeurs d'école et aux chefs d'établissement du second degré de connaître le statut vaccinal ou les résultats des tests de leurs élèves. L'objectif de cet amendement est, je cite, de faciliter l'organisation des campagnes de dépistage et de vaccination dans les établissements scolaires et d'organiser des conditions d'enseignement permettant de prévenir les risques de contamination du virus. Est-ce que vous y voyez une brèche dans le secret médical ?
Oui. Évidemment. Toujours cette pente de l'efficacité. Moi, je suis toujours, si vous voulez, surpris parce que dans d'autres domaines, moi, je me rappelle quand les maires disaient, voilà, nous souhaiterions connaître les fichiers S dans nos communes, on leur opposait, on disait, non, mais ça, on ne peut pas. Là, aucun débat sur l'efficacité. Par contre, sur une épidémie qui aujourd'hui fait 30 morts en moyenne par jour, voilà qu'on permet à certaines personnes tout à fait étrangères de connaître, d'ouvrir votre dossier de santé. Moi, je ne pense pas que ce soit la bonne manière de réconcilier les Français autour de la lutte contre cette épidémie.
On attend toujours la réponse du gouvernement face à la flambée des prix de l'énergie. Baisse des taxes ou chèque énergie sont les deux options apparemment qui sont à l'étude. Quelle solution a votre préférence ?
D'abord, un principe. Tout le surplus de recettes fiscales qui provient justement de cette hausse des prix de l'énergie et du produit mécanique lié aux taxes doit revenir aux Français. de telle manière à ce que l'État ne se fasse pas de l'argent sur quelque chose qui vient frapper les classes moyennes et populaires. Une fois qu'on a parlé du principe, peu importe le mécanisme, pourvu qu'il soit juste, il n'y a pas que les classes les plus modestes qui sont frappées par cette hausse du carburant. Il n'y a pas que les salariés. Le retraité, qui à la fin reste à vivre parfois de 80 ou 90 euros, il est aussi frappé. Je proposerai, dans le cadre de ce projet de loi de finances, un mécanisme consistant à dire que jusqu'à environ 2000 euros de revenus moyens, si la hausse de, je dirais, le surcoût énergétique représente plus de 1% de votre revenu, c'est-à-dire en gros sur 20 euros dans le cas d'espèce, eh bien, dans ce cas-là, qu'on puisse ouvrir des mécanismes d'aide de telle manière à amortir ce choc sur l'année.
Quatre débats entre les candidats à l'investiture des Républicains pour la présidentielle 2022 vont être organisés au mois de novembre. Il y en aura un par semaine. Le premier aura lieu le 8 novembre, le dernier le mardi 30. Était-ce bien nécessaire, puisque finalement le choix du candidat ne va pas se faire au cours d'une primaire, mais au cours d'un congrès qui sera réservé aux seuls militants en cours d'adhésion?
Oui, mais le congrès, ça n'est pas un mode de départage, c'est un collège. C'est un collège, et comme vous avez plusieurs candidats, de facto, c'est ce qu'on pourrait appeler une primaire fermée. Enfin, je dis chute, ne disons pas, mais quand vous avez plusieurs candidats qui se présentent, c'est l'équivalent d'une campagne interne. Moi, j'en ai fait une, oui. On était plusieurs candidats. Alors, ce n'est pas une primaire, c'est une compétition, c'est un départage. C'est effectivement un choix.
Donc, les débats sont pertinents?
Alors, je pense que les débats sont pertinents parce qu'ils permettent de faire sortir un peu les candidats de leur zone de confort. Ils sont pertinents même avant la clôture des adhésions républicains parce que celui qui va regarder la chaîne de télévision va peut-être prendre sa carte pour soutenir un candidat. Et puis, ils sont pertinents, oui, pour aussi occuper l'espace médiatique parce que dans une magnifique inversion de circonstances, Éric Zemmour a passé pendant 30 ans de sa vie à commenter la vie des autres, et maintenant voilà que les autres sont priés de commenter jour et nuit le moindre geste d'Éric Zemmour, donc peut-être qu'on pourra du coup parler un peu des propositions des Républicains.
Vous pensez, il y a eu cet épisode, il ne reste pas beaucoup de temps, mais il y a eu cet épisode hier où on l'a vu pointer une arme évidemment non chargée vers des journalistes, Marlène Schiappa s'est dit horrifiée, il l'a lui traité d'imbécile. Vous pensez qu'il y a une stratégie d'Éric Zemmour qui consiste à chercher par tous les moyens à faire parler de lui, à occuper l'espace médiatique tous les jours?
Non, je pense pas. Je pense qu'il y a une forme d'obsession de la plupart des médias sur sa non-candidature, qu'il a été maladroit, que voilà, moi j'ai appris dès l'âge de 4 ou 5 ans, même avec des armes en plastique, on ne pointe pas une arme, même en plastique, même pas chargée sur quelqu'un. Maintenant, lui donner, si vous voulez, une signification politique en disant que c'est le symbole d'Éric Zemmour menaçant les journalistes, d'abord c'est du commentaire sur deux commentaires, deuxièmement ça n'a aucune portée politique, et voilà, et on consomme, si vous voulez, du temps d'antenne, alors que dans le même temps, vous avez des millions de Français qui se demandent comment ils vont passer l'hiver, soit avec la hausse du chauffage, soit avec la hausse des prix du carburant.
Bon, vous remarquez qu'on n'y a pas passé longtemps. Merci.
Non, je vous en félicite.
Merci, Julien Aubert.